أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين، وثبت قلوبا على الدين، واحفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Donc vous l'avez tous remarqué, on est en plein mois de Ramadan, mois de Rahma, de Baraka, mois de miséricorde, de pardon, de un mois de chance, car nous avons la chance d'être musulmans, la chance de pouvoir pratiquer un pilier de l'islam, le quatrième, le jeûne du mois de Ramadan. Nous avons la chance encore d'être vivants aujourd'hui pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur. Alors c'est très important. Il y a dans l'année des occasions en or qu'il ne faut pas rater. Vous savez, il y a des soldes. Des moments donnés, il ne faut pas les rater parce que vous pouvez avoir à moitié prix des choses que vous paieriez le double en dehors des périodes des soldes. De même, dans l'année, Allah crée des occasions pour pouvoir justement acquérir des choses de manière un peu plus facile grâce à un effort qu'on fait, mais grâce à l'occasion que Dieu a créée. Et ces qualités spirituelles, on a plus de mal à les acquérir en dehors de ces périodes de solde spirituel. Ainsi, il a fait le Ramadan une station, un moment de l'année pour pouvoir justement sauter sur l'occasion pour remplir des batteries, remplir le cœur de piété. De même qu'il a créé dans la semaine le jour du vendredi. Et dans le jour du vendredi, il a arrêté une heure dans la journée pour pouvoir sauter à nouveau sur une occasion pour faire des invocations qui sont exaucés. Il y a le pèlerinage dans la vie. Bref, Dieu sait très bien que notre foi est chancelante. Elle monte et elle diminue. Nous sommes faibles. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la foi, la piété, notre manière de vivre notre religion, c'est comme les feuilles des arbres. Vous savez, en automne, le vent vient et qu'est-ce qu'il fait? Il les emporte. Elles ne tiennent plus. Elles ne sont pas solides. De même, la foi, il y a un vent qui peut venir et l'emporter. Pas la conviction. On croit toujours. Mais on n'a plus la foi. Ça veut dire quoi, on n'a plus la foi? C'est-à-dire on n'a plus la pêche pour pouvoir être de bons pratiquants. On n'a plus le goût. L'envie. On n'est plus animé par une ardeur qui nous pousse à pratiquer sans difficulté et à trouver du plaisir dans la pratique. À pratiquer sans difficulté, c'est pas un fardeau, c'est pas lourd, c'est pas une galère. Au contraire, on y trouve du plaisir. Ainsi, la foi, elle augmente et elle diminue. Et il y a des périodes où, malheureusement, le vent vient et l'emporte, puis elle revient. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, la foi s'use dans les poitrines, comme un vêtement, à force de le porter, s'use. Alors quoi? Ben, il faut le changer. Ou plutôt, il faut le rapiécer, s'il est troué. Il faut toujours penser à redonner la vie à notre foi, parce que elle est en danger de mort. Et qu'est-ce qui tue la foi? Les péchés. Les grands, les petits, quand ils s'accumulent. Deuxièmement, le doute que sème Shaitan dans nos esprits, ou le doute qui est le fruit de notre ignorance, ou le doute qui a pour origine les questions des êtres humains et les actions des êtres humains, ça tue la foi. si bien qu'à la fin, on a du mal à pratiquer. Il y en a carrément qui laissent tomber la pratique. Il y en a pendant le ramadan, c'est des bons musulmans. Une fois ramadan terminé, ils prennent des congés. Pendant 11 mois. Parce que pendant le ramadan, il y avait une ambiance de foi. Il y avait moins de diables. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un mois de baraka de rahma. Regardez, la mosquée est pleine. C'est le ramadan. Le ramadan fini, la mosquée se vide. Il y a des occasions comme ça. Il y en a, malheureusement, ils ne captent que les grandes occasions, le ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Vous savez, c'est flagrant, c'est voyant. Mais en fait, il y a des occasions tous les jours, 24 heures sur 24. Il y a une occasion qui s'appelle Sahar, tôt le matin. C'est une occasion en or. Dieu est plus proche de nous. Parce que les gens sont loin de Dieu à cette heure-là. Ils sont dans le gaz. Ils dorment. Ils sont loin de Dieu. Mais il y en a, c'est des spécialistes. Quand tout le monde est dans le gaz, quand tout le monde dort, eux, ils se réveillent. Ils sont bizarres. Ils sont pas comme les êtres humains. Parce qu'ils ont la foi. Comprenez? Ils ont des relations privilégiées. Ils ont des rendez-vous que les autres n'ont pas. Ainsi, il y a des occasions en or qu'il ne faut pas rater. Il y en a, pendant ces occasions, ils ont la foi, ils ont la pêche, ils pratiquent. Et une fois les occasions terminées, ils arrêtent. Ils arrêtent de pratiquer. Il y en a qui continuent, mais leur pratique devient un réflexe physique. C'est-à-dire, ils font et ils agissent parce qu'ils n'osent pas laisser tomber, sinon ils auraient des remords et ils seraient considérés comme des faux musulmans, des pseudo-musulmans. Alors, ils restent dans la pratique et ils supportent cette pratique. C'est déjà pas mal, c'est mieux que l'autre qui a carrément laissé tomber. Mais, la pratique devient pour lui, comme Dieu dit dans le Coran, « وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » La prière est dure, elle est lourde, elle est compliquée, elle est difficile. C'est une prise de tête, sauf pour une catégorie de croyants. Vous savez lesquels? Ceux qui ont le khushu', ceux qui ont la crainte de Dieu. Eux, la prière n'est pas difficile. Au contraire, ils y trouvent du plaisir. Mohammed ibn Wasi', radiallahu anhu, un saint, un pieux, fait partie des tabi'in, disait, pendant 20 ans, je me suis battu pour être concentré dans ma prière et j'ai souffert. Parfois j'y arrivais, parfois je n'y arrivais pas. Parfois j'y arrivais pendant 15 secondes. Et les 3 autres minutes, j'étais ailleurs. Et des hauts et des bas. Mais maintenant, ça fait 20 ans que je jouis dans la prière. Et je passe plus de temps concentré dans la prière que de temps non concentré. Hada Muhammad ibn Wasi', radiallahu anhu, tellement il était pieux. Les généraux des armées musulmanes se battaient pour l'avoir avec eux dans leur armée. C'était pas, je veux dire, quelqu'un qui maîtrisait bien l'art de la guerre, mais il maîtrisait un art. Vous savez lequel? L'art de la dua, de l'invocation. Muslim ibn Qutayba, quand il est arrivé devant l'armée des Kuffars, qui était très 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 nombreuse, sur son cheval, il se retournait et regardait ses hommes. Et on voyait qu'il cherchait quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il a dit, je cherche Muslim ibn Qutayba. Je cherche Muhammad ibn Wasi'. On lui a dit, il est là-bas, dans le fond, là-bas, tu vois. Et il le regarde, et quand il l'a aperçu, il a dit, alhamdulillah, c'est bon. On lui a dit, Alash. Il a dit, regardez, il a le doigt levé vers le ciel. On lui dit, alors? Il a dit, vous savez ce doigt-là levé vers le ciel? Je le préfère à 1000 soldats robustes qui maîtrisent l'art de couper les têtes des kofars. On lui a dit pourquoi? Il a dit parce que Hada, quand il fait une dua, c'est bon. C'est dans la poche. On a gagné. On peut, même s'ils sont 10 fois plus nombreux, même s'ils ont... C'est bon. Si Mohammed ibn Wasi' lève le doigt vers le ciel, il a appelé du secours, on a gagné à coup sûr. Et c'est vrai. L'armée dans laquelle se trouvait Mohammed ibn Wasi' a gagné. Pourquoi? Parce qu'il était pieux. Vous comprenez? Il a purifié son cœur dans sa prière et quand il allait au champ de bataille contre Shaitan,
visible et invisible, il avait le dessus. Grâce à quoi? Grâce à un contact qu'il avait avec Dieu qui était pur, sans parasite. Comprenez? Il n'était pas perturbé, son contact. Et c'est ça le but du ramadan. Vous savez, c'est quoi le but du ramadan? C'est de purifier notre cœur, miskin, qui est malade. Pendant 11 mois, notre cœur souffre. Notre âme, elle souffre des péchés, du doute. Et il faut purifier son cœur. Il y en a, malheureusement, ils oublient de le purifier tous les jours. Parce que leur prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous faites la prière, vous effacez les péchés que vous avez faits entre cette prière que vous avez faite et la prière d'avant. On a fait dhuhr, on a effacé tout ce qu'on a fait depuis sobh. C'est des péchés, des bêtises. On a tout effacé, tu vois. On a tout effacé en théorie. Est-ce que vraiment ça s'est effacé? Allahu a'lam. Ah bah oui, attention. Il faut encore que notre prière soit acceptée. Il faut qu'elle soit bonne. Il faut qu'elle soit valable. Il y a un hadith qui fait peur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Dieu ne retient de notre prière que le temps durant lequel on a été concentré. Le reste, c'est quoi? Je ne sais pas. Il ne retient que le temps durant lequel on a été concentré. Le reste, c'est Khinzaboun qui a gagné. Le diable de la prière. Il y a un diable spécialiste dans quoi? Dans l'art de nous déconcentrer dans la prière. Il s'appelle Khinzaboun, na'latullahi alayh. Il est ardu. Un pot de colle. Tu fais l'adhan, il se tire, il revient juste après l'adhan. Et plus ton adhan est fort, c'est-à-dire plus il est sincère, ouais, plus il sort du cœur, plus il met du temps pour revenir, puisque tu l'as envoyé à une année-lumière. Comprenez? Il s'éloigne en fonction de quoi? Fonction de ta piété. Et il revient à l'attaque. Tu fais l'iqama, il se tire à nouveau. Tu l'as éloigné. C'est la catapulte. Tu le catapultes à des kilomètres. Il y en a, il le catapulte même pas. Il est là, à côté, il lui dit, oh, tu peux toujours crier, ton adhan, il ne me fait rien du tout. Tu sais, j'ai pas peur. L'imam Ibn al-Qayyim explique. Il dit, vous savez, le dhikr qu'on fait, les doigts, dire ça le matin, dire ça le soir, il dit, n'aura aucun impact sur vous si ça ne sort pas du cœur. La preuve, le kafir peut très bien les dire, ces invocations. L'hypocrite peut très bien les faire. Le problème n'est pas dans la formule qu'on prononce. Vous entendez? La preuve, il y en a qui prononcent la formule, ils n'ont aucun résultat. Il y en a qui prononcent la formule, ils ont des résultats. Donc, le secret de l'invocation, de l'évocation, n'est pas dans la formule. Mais il est dans l'état dans lequel vous êtes lorsque vous prononcez la formule. Vous entendez? Alors, il s'éloigne et il revient à nouveau après l'iqama. Et là, il essaie de nous faire oublier ce pourquoi nous sommes dans la mosquée, pourquoi nous sommes debout devant Dieu. C'est-à-dire, le contact divin, demander le pardon. Demander le pardon à Dieu dans la prière, après la prière, juste avant la prière, avec les ablutions. En fait, il ne faut pas que nos prières, nos ablutions soient des gestes répétitifs qui n'ont pas de sens. Vous connaissez le hadith, celui qui fait le wudu, les péchés tombent avec l'eau. Hein? Tu te laves les mains, l'eau qui tombe de tes mains emporte les péchés. Elle emporte les poussières, ouais, les souillures, et en même temps les péchés invisibles, ce qui est sale et qui se voit, et ce qui est sale et qui ne se voit pas. La bouche, quand tu traces la bouche, tu craches l'eau, les péchés que tu as fait avec ta langue tombent. Mais ça, c'est pas n'importe quel wodo, ça. C'est un wodo spécial. C'est des ablutions, quand tu les fais, tu es concentré pendant tes ablutions. C'est-à-dire tu fais tes ablutions avec l'intention, quand tu craches l'eau, tu craches tes péchés en même temps. Hein? C'est-à-dire, il faut avoir l'intention. C'est pour ça, un jour, l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, il avait un homme qui faisait le wudu. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ne recommence plus à faire du mal à tes parents. C'est bon. Allah, il t'a pardonné cette fois. Il a dit, qui c'est qui te l'a dit? Il a dit, je l'ai vu dans l'eau qui tombe. T'es en train de faire le wudu, je vois tes péchés qui tombent avec ton eau. C'est bon. Ok? Le wudu, pour toi, il a marché. Mais recommence plus, parce qu'il ne faut pas déconner avec les parents. Cette fois, c'est parti avec l'eau. Voilà, qui n'en sait pas la prochaine fois. Donc, vous voyez, c'est possible. C'est réel. Mais, Dans quel état tu es quand tu fais le wudu? Dans quel état tu es quand tu fais la prière? Et c'est quoi le but du ramadan? Le but du ramadan, c'est de profiter de cette occasion pour purifier notre cœur qui a été sali, miskin, par quoi? Par les péchés, par le doute, par mille et une choses. Alors le problème des musulmans aujourd'hui, c'est que, tu le vois à travers les questions des gens quand tu fais des conférences sur le ramadan, c'est toujours, est-ce que pendant le ramadan je peux mettre du parfum, oui ou non? Mon ramadan, est-ce qu'il est valable ou non? Est-ce que je peux me brosser les dents? Est-ce que je peux mettre du creux? Est-ce que je peux mettre du maquillage? C'est les questions qui reviennent toujours pendant le ramadan, les piqûres. C'est-à-dire que des questions matérielles. Ouais. Elles sont bonnes, hein, ces questions. Hein. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer à les poser si on veut savoir et on veut connaître. Mais on oublie les questions les plus importantes. C'est comment faire un ramadan qui va me permettre, à la fin du mois, de me retrouver avec un compteur à zéro. C'est-à-dire recommencer ma vie à zéro. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'un ramadan à l'autre, Dieu efface les péchés que vous avez faits entre les deux ramadans. Mais pas n'importe lesquels, hein, les petits. Les gros péchés, il faut te réveiller plus tôt. Ouais, il y a autre chose à faire. Alors, la vraie question, c'est comment faire? Ou qu'est-ce qui va empêcher mes péchés de disparaître pendant le ramadan? Ça, c'est des questions plus compliquées qui interpellent le sens, la spiritualité, la piété. Et lisez le Coran. Il y a une sourate qui part du ramadan. Il n'y en a pas 50. Hein. Il y en a une. Et en plus, c'est une petite partie de cette sourate. Cette sourate fait 256 versets. 286. Et c'est combien de versets? C'est 4 versets qui partent du ramadan. Al-Baqara. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous est prescrit. Pourquoi? On nous dit toujours pourquoi est-ce qu'on jeûne. C'est tout simple. La'allakum tattaqun. Jeûner pour avoir la piété. Voilà le but du ramadan. Avant que ce soit une histoire de régime, avant que ce soit une histoire de faim, avant que ce soit une histoire de penser aux pauvres, avant que ce soit une histoire d'ambiance familiale, le ramadan, le premier objectif du ramadan, c'est le cœur, la piété, at-taqwa. Wat-taqwa ha-huna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre du doigt son cœur trois fois et il dit la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici. C'est-à-dire, l'origine de la piété est dans le cœur. Elle émane du cœur et elle déborde et elle découle et elle se voit à travers ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière de te comporter. Mais la piété, c'est la sincérité, c'est un état de spiritualité qui te transforme, qui fait de toi un être humain différent des autres. Le dernier verset de cette sourate qui parle du ramadan, vous savez c'est quoi? كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ. C'est ainsi que Dieu vous explicite ces versets, ces signes. Dans quel but? Pour ne pas outrepasser les limites de Dieu. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Regardez, ça commence avec jeûner pour avoir la piété. Ne désobéissez pas à Dieu, respectez ses lois pour avoir la piété. Donc le but du jeûne, c'est de nous transformer. Alors, qu'est-ce que veut le jeûne de nous? Comment on doit être? Comment on doit se transformer? Ouvrez vos oreilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith véridique: ô vous, ya ma'ashara man, ô vous. Et le prophète, il ne désignait pas des gens par leur nom et leur prénom. Et Yahshim, il ne brûle pas les gens. D'accord? Il ne crame pas les gens, lui. Il parle en général. S'il y a quelqu'un parmi ses compagnons qui a fait une faute, il ne le balasse pas en public. Ça, il ne fait pas un tract, il le distribue dans lequel il dit... Non, c'est soit il va voir directement la personne, il la prend dans un coin et lui dit « Écoute, tu as fait ça, c'est pas bien, il faudrait faire ça. » Ou soit il parle en général et il dit « Ceux qui font ça, c'est pas bien. » Et les gens, ils ne sont pas bêtes, ils se sentent concernés. Celui qui ne se sent pas concerné, tant mieux pour lui. Alors il dit, ya ma'ashara man, amana bilisanihi, wa lam yu'min biqalbihi. Ô vous qui croyez avec vos langues, mais qui n'avez pas encore cru avec vos cœurs. Ô vous qui êtes musulmans en apparence, mais qui ne l'êtes pas à l'intérieur. Alors, qui sont ces musulmans ? Le prophète parle d'eux. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit, arrêtez. Arrêtez de quoi ? Arrêtez de dire du mal de vos frères. Arrêtez de courir, de chercher, de rechercher les fautes, les piétés, les défauts de vos frères. Parce que celui qui court après les erreurs, les fautes de son frère, pour les dévoiler en place publique, Dieu le mettra en place publique ce qu'il fait en cachette dans sa maison. Ça, on a tous un double comportement. À la mosquée, on est les meilleurs, les plus beaux, les plus mignons, les plus gentils, les plus serviables. Et une fois qu'on est chez nous à la maison, il n'y a plus un public, on n'a pas peur pour notre réputation, on n'est qu'avec nos femmes et nos enfants, on se transforme. Il n'y a plus la gentillesse, l'adab, le respect, il n'y a plus tout cela. On devient des êtres humains tout à fait normaux, c'est-à-dire il n'y a que nos envies qui nous intéressent, il n'y a que nos idées qui passent, il n'y a que notre volonté de dominer qui s'impose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les petits musulmans là, qui en public font le musulman, et chez eux, ils désobéissent à Dieu, il n'y a personne qui les voit. Ils regardent la télé, s'il y a un frère, ils zappent tout de suite, parce qu'il y a une scène. Il n'y a pas de frère, il met plus de temps pour zapper. Vous comprenez ? Allez, la télécommande, elle marche moins bien. Parce qu'il n'y a personne, il y a quelqu'un tout de suite. Ou même pas, il y a quelqu'un qui ferme la télé. Il dit, ah, moi je suis un bon musulman, je ne regarde pas la télé. C'est ça le manque de taqwa. La taqwa, c'est quoi la taqwa qu'on doit avoir ? C'est que tu saches que Dieu est avec toi dans la mosquée, dans la maison. C'est que tu saches que les gens te voient ou non, te filment ou non, c'est kiff-kiff. Et le plus important, c'est le film de Dieu. C'est la caméra de Dieu. Ce sont les anges qui filment, qui écrivent, qui prennent des notes. C'est ça le plus important, puisque on peut tricher, tromper les gens, mais on ne va pas tromper Dieu quand même. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui trompe Dieu, le jour de la résurrection, Dieu lui dira, va demander à ceux pour qui tu faisais ce que tu faisais, ou tu ne faisais pas ce que tu ne faisais pas. Va leur demander la récompense. Il va aller en enfer. Parce que Dieu est jaloux. Il veut bien que tu l'adores, mais à une condition, tu l'adores lui tout seul. Tu adores quelqu'un d'autre avec lui, t'es cuit. Ça ne sert à rien du tout. Tu perds ton temps. Comme toi, tu es jaloux. Tu pourrais même pas supporter que ta femme aime quelqu'un d'autre, un autre homme. Tu pourrais même pas penser ça. Tu la tues, avant même qu'elle y pense. Même chose, une femme, elle pourrait même pas supporter que son mari regarde une autre femme ou pense à une autre femme. Elle devient folle. C'est normal. Ben Dieu est encore plus jaloux que nous. Tu fais quelque chose pour lui et pour quelqu'un d'autre, t'es cuit. Ana arna shuraka. Il dit, faut pas déconner avec moi. C'est soit tu es sincère, ahlan wa sahlan, tu n'as pas besoin de beaucoup. Une petite chose sincère, moi j'en fais une montagne. 5 centimes sont multipliés, ils deviennent des milliards. Mais tu donnes 1 million et en même temps tu recherches la gloriole, tu recherches les applaudissements, tu le fais pour moi et pour les autres, tu es cuit. Ça ne vaut rien. Va en enfer et tu demandes aux gens de continuer à t'applaudir et à te récompenser. Ça c'est dur ça. Et à ça, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, rien de plus dur si ce n'est que d'être sincère. Parce que quand tu es sincère, ton œufs, ton ego, vous le connaissez. Oui, c'est ton ennemi, non ? Notre ennemi. Parce que ton œufs, il ne gagne plus rien quand tu es sincère. Et quand tu es sincère, le neuf, il mange plus une skin. Il n'y a plus rien, puisque tout est fait pour Dieu. Nous, parfois, vous savez, on fait des choses pour Dieu à 99%, puis il y a 1% pour nous-mêmes. Et on y trouve une satisfaction pour les gens. Donc le neuf, s'il est quelque part, il mange une skin, ouais, il mange, il ne meurt pas de faim. Parfois, c'est le contraire, c'est 99 pour le neuf, c'est 1 pour Dieu. Mais la sincérité, le neuf, zéro mskin. Il n'y a rien du tout. Alors il souffre. C'est pour cela, rien de plus dur si ce n'est que d'être sincère. Et qu'est-ce qu'il dit ce saint ? Il dit, l'hypocrite, il n'a qu'une niya, une intention, et il la garde pendant 40 ans, toute sa vie. Celui qui cherche à être sincère, 40 fois par jour, il change de niya. 40 fois par jour, il se remet en question. Parce qu'à chaque fois, il se dit, je ne suis pas sincère, je ne suis pas assez sincère. Est-ce que je fais bien ou non? Est-ce que Dieu est content ou non? Il est toujours, il se remet toujours en cause. La uqsimu bin nafsi lawwama. Il a une nafs qui est lawwama, qui le critique, qui le déstabilise à chaque fois en lui posant des questions profondes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Oh, vous qui croyez avec la langue, mais pas avec le cœur, arrêtez, retenez vos langues, arrêtez de faire du mal à vos semblables avec votre langue. Parce que si vous n'arrêtez pas, vos bêtises que vous faites en cachette, loin du regard des gens, Dieu va les éditer dans le journal du quartier, tout le monde sera au courant. Et là vous aurez honte, comme vous avez fait honte aux autres. » Comme vous avez fait du mal aux autres en évitant de les recouvrir d'un voile, en les conseillant dans le secret. Et c'est ça le sincère, c'est celui qui conseille en secret. Alors, moi Dieu, je vais vous punir comme vous les avez punis. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, ou Abdullah ibn Amr ibn al-As qui rapporte le hadith, dit, je le jure par Dieu que la Kaaba, est plus importante que l'honneur d'un être humain. Il vaut mieux détruire la Kaaba que de faire du mal à un être humain avec sa langue. Il vaut mieux détruire la Kaaba que de faire du mal à un être humain avec sa langue. C'est pour ça, il y a un grand savant qui s'appelle Tajuddin Subki, rahimahullah. Il est adulte, hein. Et un jour, il était au pas de sa porte. Son père était à l'intérieur de la maison. Son père, c'est encore quelqu'un de plus grand que lui, de plus spirituel. Et son père, Taqiyuddin Subki, c'était quelqu'un de très spirituel. Donc le fils était au pas de la porte et il y a un chien qui passe. Et vous savez ce qu'il dit au chien, Tajuddin Subki? Il dit au chien, Irsa, allez, va-t'en. Kelb ibn al-Kelb. Allez, va-t'en, chien, fils de chien. Ouais. Va-t'en. Là, on dirait aujourd'hui, va-t'en, sale chien. C'est ça? Va-t'en, sale chien. Son père qui l'a entendu, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, mon fils. Non. Yama, arrête. Ne recommence pas. Demande pardon, tu viens de faire un péché. Le fils, Tajdi, lui dit, papa. J'ai pas menti, c'est bien un chien, fils de chien. Oui, c'est un kelb. Il a dit, non mon fils, tu n'as pas dit cette formule, chien, fils de chien, pour nous rappeler ses origines, mais tu l'as dit pour l'insulter et ça marche pas. Hein? Ça marche pas. C'est-à-dire, même l'animal, faut pas l'insulter. Tu n'as pas dit kelb ibn al-kelb. Parce que c'était un chien, fils de chien, mais tu as prononcé cette formule, cette parole, pour l'insulter, et même ça, tu n'as pas le droit. Regardez, subhanallah, la piété jusqu'où elle va. Même le chien, il faut faire attention quand on lui parle. Vous entendez? Quand on parle à un chien, il faut faire attention à ta niya, parce que même si tu dis une vérité sur un chien, si ta niya n'est pas bonne, tu commets un péché. Alors, vous savez, c'est quoi la taqwa que Dieu nous demande d'avoir pendant le ramadan? C'est savoir que le Dieu qui t'a interdit de boire et de manger, et d'avoir des rapports sexuels et de fumer la journée, c'est le même Dieu qui t'a dit fais attention à ta langue, à tes yeux, à tes oreilles, à ta pensée pendant le ramadan. C'est le même Dieu. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui nous empêche de boire? J'ai soif là, j'ai faim. Qu'est-ce qui m'empêche de boire? Deux choses. Soit c'est parce que je sais que Dieu me voit, n'khaf, ou soit j'ai peur des gens. Alors si j'ai peur des gens, vous savez ce que je fais? Je m'en vais, je me cache et je bois. Et je ressors et je dis aux gens, ouh, je jeûne. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de leur dire, puisqu'en principe, tout musulman toute tête d'arabe, ouais, jeûne. Donc, nous sommes tous dans cette salle des gens qui sont en train de jeûner. Nous sommes tous, en théorie. Peut-être qu'il y a un traître. Oui, peut-être qu'il y a un traître. Peut-être qu'il y en a un ici. Il ne jeûne pas. Il vient de manger, il est venu à la mosquée. C'est possible. C'est pour ça, qu'est-ce que dit le hadith? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la récompense du jeûneur, c'est l'affaire de Dieu. Wassaumo li. Le jeûne, c'est mon affaire. C'est-à-dire, vous ne pourrez jamais savoir si dans cette mosquée, tout le monde jeûne. Vous ne pouvez pas le savoir. Maintenant, est-ce que dans cette mosquée, tout le monde fait la prière? On le sait. C'est pourquoi on le sait? Parce que regardez, dans une demi-heure, c'est l'asr. C'est tout simple. On se met debout. Il y en a qui ne fait pas la prière. Ben, ça se voit, c'est flagrant. Il n'a pas fait la prière. On sait qu'il ne fait pas la prière. Alors pourquoi il ne la fait pas? On va lui demander. Peut-être qu'il a une excuse. Peut-être que le mec, il va dire, oui, je ne fais pas la prière. Je ne sais pas la faire. Je n'ai pas appris. C'est flagrant, le mec qui ne fait pas la prière. Un jour ou l'autre, ça se voit. La zaka, même chose, celui qui ne la donne pas. Le fils qui débarque et lui dit, t'as pas payé ta zaka. Mais le ramadan, tu peux faire croire à tout le monde que tu le fais alors que tu ne le fais pas. Et il n'y a personne qui a un moyen de prouver que tu ne le fais pas. Personne. C'est pour ça, Allah il dit, le ramadan c'est mon affaire. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui sais le vrai du faux, qui le connaît. Deuxièmement, puisqu'il n'y a que moi qui connais, donc il n'y a que moi qui le récompenserai. C'est-à-dire, le ramadan c'est la preuve de la sincérité. C'est la preuve de la sincérité. Celui qui jeûne, c'est parce qu'il est sincère. S'il n'était pas sincère, il mangerait en cachette, il boirait en cachette. La prière, les hypocrites la faisaient. Ils entraient dans la mosquée, faisaient la prière. Mais le jeûne, il vient à la mosquée, tu crois qu'il fait le jeûne, en fait, il ne le fait pas. Le pèlerinage. Les hypocrites l'ont fait. Tous les actes de l'islam, vous pouvez les faire et être un hypocrite, mais le jeûne, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous trompez les êtres humains avec tous les actes, sauf le jeûne, vous ne trompez pas Dieu, vous trompez les êtres humains également, mais, Dieu est au courant du jeûneur. C'est pour cela que la récompense, personne n'est au courant. Parce que personne n'est au courant de celui qui jeûne et de celui qui ne jeûne pas. Donc, elle est cachée, la récompense. On la connaîtra, Yaoum al-Qiyamah. Quand Dieu va dire, toi t'as jeûné, viens ici. Toi, t'as triché, va là-bas. Les jeûneurs seront séparés, les vrais des faux, et Dieu les récompensera, et même nous, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que le jeûne est la preuve de la sincérité. Et la taqwa qui nous est demandé d'avoir, c'est la sincérité avant toute chose. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, radiyallahu anhu, abid al-haramayn, le dévot des deux lieux saints. Qu'a-t-il dit? Il a dit, ne cherche pas à plaire aux gens parce qu'ils sont tellement nombreux que si tu plais à l'un, tu déplais à l'autre. Et tu vas devenir fou. Cherche à plaire à une seule personne, c'est plus facile, elle est toute seule. C'est-à-dire Dieu. Et c'est ça la sincérité. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit, le sincère c'est celui qui, en public, il a la pêche. Quand il est tout seul, il n'y a plus la pêche. Allez, en public, il pratique. Dès qu'il est seul chez lui, il n'y a personne qui ne le voit, il pratique plus que comme il pratiquait quand il était en public. Parce que quand il est en public, il y a les gens, il y a peur des gens, il fait par rapport aux gens. Quand il est tout seul, il n'y a plus personne. Et le regard de Dieu, ben, ça ne l'intéresse pas tellement. C'est pour ça qu'il se laisse aller. Ainsi, le ramadan a pour but la taqwa. Et la taqwa, le premier pas qu'on doit faire pour avoir la piété, c'est d'être sincère. Deuxièmement, la taqwa, vous savez ce que c'est? C'est comme on a posé la question à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, un grand compagnon. prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'Ubay, si vous voulez apprendre le Coran de quelqu'un qui le maîtrise de manière parfaite, apprenez le Coran de la bouche d'Ubay ibn Ka'b. Il fait partie des grands compagnons spécialistes du Coran qui l'ont transmis. Et d'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ya Ubay, viens. Allah, du haut des sept cieux, m'a dit de te réciter une sourate du Coran. » Ubay lui a dit, « Quoi ? Allah, il t'a parlé de moi ? Allah, il m'a cité ? Allah, il t'a dit, moi, Ubay ibn Ka'b ?» Il lui a dit oui. Il a fondu en larmes. Tellement il était content. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Ubay, ben, il a de l'importance aux yeux de Dieu, non ? Mais Allah, il a dit à son prophète, tu vas, tu attrapes Ubay et tu lui recites « Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin » Surat al-Bayyina. Khlas ! Il était aux anges. Et c'est vrai, hein, franchement. T'imagines, t'es réputé, t'es connu dans le ciel. Allah, il te donne de l'importance. Les anges te connaissent. C'est ça qui doit d'abord nous intéresser. C'est comment est-ce que Dieu me considère. Parce que si c'est ça la chose la plus importante, on va faire la paix avec Dieu, vous entendez ? Et on va déclarer la guerre à notre ennemi. Vous vous souvenez de notre ennemi qui est-ce ? Nafsuka allati bayna janbayk. Lui là, notre nefs qui est à l'intérieur. C'est lui notre ennemi, c'est lui qui nous cause des problèmes. C'est quand tu te disputes avec quelqu'un, c'est dur de faire la paix, c'est dur d'aller vers lui. Tu sais à cause de quoi ? À cause de ton nefs. Ou d'ailleurs, ils se ressemblent, le nef et le nefs. Tu sais, t'as du mal à t'abaisser. Dispute-toi avec ta femme, tu vas voir. Ou ta femme se dispute avec toi. Tu sais ce qui va se passer ? Tu lui fais la tête, elle te fait la tête. Et chacun y est dit, bah allez, j'attends. C'est elle qui doit venir. Elle doit marcher à quatre pattes et elle doit reconnaître que c'est elle qui a tort. Tu sais au fond de toi-même que tu as tort aussi, mais tu t'en fiches. Quoi ? Je vais me rabaisser, ça va pas, non ? Ton nefs, il te gonfle. Si il te dit non, t'es un rajl. Puis même, c'est de sa faute. Jamais tu te diras c'est de ma faute. Ou si tu te dis c'est de ta faute, un petit peu, mais c'est surtout elle. Alors tu attends. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la même chose que toi. Elle attend. Et qui c'est qui rigole ? C'est Shaitan. Elle pleure dans son coin, elle ne te le fait pas voir. Toi, tu pleures dans ton coin. Non, toi, tu pleures pas. Toi, tu pleures à l'intérieur. Tu ne montres pas les larmes. Les hommes, ils ne montrent pas leurs larmes. Les femmes, oui. Et qui c'est qui est gagnant ? Le nefs qui gonfle, qui prend du poids. Shaitan. Qui c'est qui est perdant ? C'est la famille. Par contre, tu prends ton courage à deux mains. Tu écrases ton nefs. Et puis, tu dis après tout. C'est pas une diablesse, ma femme. Elle a des défauts, mais moi aussi j'en ai. Allez, viens, on fait la paix. Na'alatullah ala shaitan. C'est war, c'est dur, mais ça ramène. Ça évite beaucoup de problèmes. Il y a un prophète qui s'appelle Youssouf, alayhi salam. Il a 11 frères. Ils ont comploté contre lui. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont jeté dans un puits. Pas mal, hein, quand même. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont menti. Ils ont fait semblant de pleurer. Quand il les a revus des années plus tard, vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, mes frères, c'est Shaitan, vous savez. C'est lui qui a mis... C'est lui qui a créé des problèmes entre vous et moi. Allez, il ne les a même pas accusés. Il ne leur a pas dit, c'est vous les diables. Il ne leur a pas dit, allez, venez ici, bande de pourris. Vous vous souvenez Il ne leur a pas dit ça. Hein. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, c'est Shaitan. C'est lui qui est venu mettre son pif entre nous deux, pourquoi ? Pour nous ? Pour nous... Vous voyez, quand on tue son œuf. Qu'est-ce que je disais ? J'ai ouvert une parenthèse et j'ai oublié... Qu'est-ce que je disais ? Non, mais avant, ça c'était la parenthèse. C'est elle qui m'a égaré. Le œuf ? Oui, ah, c'est ça, non. Avant Youssouf. La sincérité, vous savez, si on est sincère, ouais, on va faire la paix avec Dieu, c'est ça ? Et on va déclarer la guerre à notre nefs. Et une fois que tu as fait la paix avec Dieu, tu es tranquille avec toi-même, et une fois que tu as fait la guerre à ton nefs ne te joue plus de sale tour. Tu le domines. Et c'est ça le but du Ramadan. Ouvrez vos oreilles. Ce qu'Allah nous a interdit de faire la journée, c'est pas haram en soi. Allah nous a interdit de boire. Boire quoi? Boire de l'eau. Il ne nous a pas interdit de boire l'alcool la journée du Ramadan. Parce qu'il n'y a pas besoin de nous l'interdire. L'alcool est haram. Avant le Ramadan, après la nuit et la journée. Il ne nous a pas interdit la journée du Ramadan de nous priver de choses qui sont mauvaises, qui sont haram par essence. Mais il nous a interdit des choses qui sont bonnes. Et il nous a interdit, vous savez quoi? Des choses qui sont vitales. L'eau est vitale. Comprenez? L'eau est vitale pour le corps. Mais il nous interdit des bonnes choses la journée. Pourquoi il nous interdit des bonnes choses? Uniquement pour faire un stage. Un apprentissage. Apprendre quoi? Apprendre à dominer notre nefs. Non pas apprendre à maîtriser notre nefs pour qu'il ne fasse pas des choses haram. Ça, alhamdoulilah, on l'a déjà plus ou moins fait. Quoique de temps en temps, on retombe. Mais non, il faut apprendre à maîtriser son nefs, ses passions, même dans le halal. Même dans le halal. L'eau qui est halal, je bois pas. Ton nefs, il dit, vas-y, bois. Pitié, j'ai soif, j'en ai besoin. Tu lui dis, non, t'auras pas une goutte. Pas parce que t'es pas bon, pas parce que j'ai pas envie. J'ai envie, wallah que j'ai envie. Mais vous savez pourquoi? Je touche pas. Parce que je suis un esclave. Pas ton esclave, toi, l'eau. Toi, les frites. Je suis l'esclave de Dieu. Et Allah, il m'a dit, ne bois pas, je bois pas. Tout simplement. Je suis bête et je suis intelligent et discipliné. Vous comprenez? C'est-à-dire, Allah veut quoi? Veut qu'on soit ses esclaves, ses serviteurs. Comment? En nous disant, ne faites pas ce qui est haram. On est d'accord sur ça? Mais aussi, même le halal, quand je vous l'interdis, vous devez m'obéir. Avec nos parents, c'est la même chose, vous comprenez? C'est quoi un enfant qui obéit à ses parents? C'est quoi un enfant qui obéit à ses parents? C'est pas l'enfant, lorsque ses parents lui disent « ne bois pas de l'alcool, il obéit ». Ça, c'est évident, ça. C'est pas l'enfant, lorsque ses parents lui disent « ne va pas voler, il n'y va pas ». Ça, c'est évident, ça. Ça, s'il n'est pas comme ça, c'est qu'il n'est pas normal. Mais l'enfant qui obéit, c'est celui à qui les parents disent « ne fais pas ça, et il en vit, et c'est bon ». Et il ne le fait pas pour plaire à ses parents. Tu as envie d'aller jouer au foot, tes parents te disent non, tu restes. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Oh la haine. Ah, pourquoi il me l'interdit, le vieux? Le foot, c'est bien. Mes copains, ils m'attendent. Non, ton père a parlé. Il t'interdit une bonne chose, tu obéis quand même. C'est ça l'obéissance. Même si ça ne te plaît pas. D'ailleurs, c'est ça obéir, c'est quand ça te plaît pas. Quand ça te plaît, c'est pas de l'obéissance. Ainsi, Allah, il nous éprouve en nous interdisant ce qui est mauvais, mais il nous éprouve aussi en nous interdisant ce qui est bon pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler qu'on doit lui obéir quand ça nous plaît, quand ça nous déplaît, quand on a envie et quand on n'a pas envie. Quand c'est bon et quand c'est pas bon. On doit lui obéir. Comme tes parents. Même s'il te demande quelque chose, ça ne te plaît pas, tant que c'est bon, tu dois leur obéir. Parce que les questions, c'est toujours ça. Voilà, je veux me marier avec quelqu'un, mon père il veut pas. L'obéissance, c'est, toi tu as envie, ton père a envie du contraire, tu fais ce que ton père te dit. C'est waouh, je le sais. Vous croyez que le Ramadan, c'est facile? Là, je souffre là. J'ai faim, j'ai envie de boire, j'ai envie de manger. Mais non, l'obéissance, c'est quand ça te plaît et ça te déplaît, quand ça t'arrange et ça te dérange. Vous allez me dire, tu nous en demandes de trop. Ah bon, vous croyez qu'Allah, il nous a imposé le Ramadan pour nous prendre la tête? Mais Allah, qu'est-ce qu'il en a à faire de nous? On le fait, on ne le fait pas le Ramadan. Franchement. Vous croyez que si vous faites le Ramadan, Allah, il est gagnant dans l'histoire? Vous croyez que si vous ne le faites pas, il est perdant? C'est tous les êtres humains, depuis le premier jusqu'au dernier, et même tu mets les djinns dans le paquet. Ce sont tous de véritables croyants pieux, ça n'augmente rien dans le royaume de Dieu. Si c'est tous des pourris, des kofas, ça diminue rien. Alors pourquoi est-ce qu'il nous demande cela? Allah nous demande cela pour nous rappeler quelque chose qu'on oublie. Vous savez, qu'est-ce que c'est cette chose? Cette chose, c'est ça, ouvrez vos oreilles. On a un ennemi, mais notre ennemi, il est déguisé en ami. Et il nous arnaque 24 heures sur 24. Allah nous veut du bien. Et Allah, il ne se déguise pas, Allah. Il est clair, net et franc, direct. Il ne passe pas par quatre chemins. Il joue franc jeu avec toi. Tu dis, voilà, fais gaffe à l'autre. L'autre, c'est qui? C'est ton nefs. C'est Shaitan. Après, en fait, c'est presque la même chose. Et il te dit, lui, il est déguisé, ton ennemi là. Et il te fait voir le mal en bien. Il te fait croire que le mal est bon. Et en plus, il a un pouvoir extraordinaire. Tu sais lequel? C'est qu'il rentre dans ton corps, dans ton sang. Et il agit sur quoi? Il agit sur ton cerveau. Sur ton cerveau, il agit. Il stimule des envies. Et toi, tu tombes dans le panneau. Alors, il te faut quoi? Il te faut une volonté extraordinaire. Il te faut une force. Il te faut la foi. Il te faut l'intelligence. Il te faut la connaissance. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans son piège. Et le ramadan a pour but de dominer, de dompter, de maîtriser notre nefs. Pour qu'on soit des êtres humains libres. Libres de quoi? Libres de toute forme d'esclavage. L'esclavage de Shaitan. L'esclavage de notre nefs. L'esclavage d'un être humain. L'esclavage d'un objet. Pour devenir les serviteurs d'une seule personne, Dieu l'unique. Pourquoi être serviteur de Dieu? Parce que c'est en étant le serviteur de Dieu qu'on devient des êtres humains libres. Car si tu es l'esclave de tes passions, l'esclave d'un être humain, l'esclave du diable, vous savez à qui vous ressemblez? Vous ressemblez à cet esclave qui a 2 mètres. Il y en a qui lui dit debout et l'autre lui dit assis en même temps. Qu'est-ce qu'il fait puisqu'il est un esclave? Il lui dit viens, l'autre lui dit va. Qu'est-ce qu'il fait l'esclave? Ben, il fait harakiri, il devient fou. Allez, vous ne pouvez pas faire 2 choses contradictoires en même temps. Conclusion. Vous savez qu'est-ce que c'est la taqwa? La taqwa, c'est se libérer. De quoi? De qui? Nous libérer de nos passions. Waman adallu. Le Coran est clair. Profitez du ramadan pour le lire. Waman adallo. Qui est plus égaré? Un est le plus égaré. Le mec le plus à côté de la plaque. Vous savez qui est-ce? C'est lequel? C'est celui qui adore la statue Hubal. La statue de la liberté. La statue de son père et de sa mère. C'est lui le plus égaré? Non. C'est celui qui adore ses passions. C'est-à-dire... C'est celui qui s'adore lui-même. Vous comprenez? C'est celui qui adore ses envies. C'est celui qui est l'esclave de ses passions, de ses désirs. C'est lui le plus égaré. Les Arabes, quand ils voyageaient, il fallait qu'ils emportent avec eux des statues. Parfois, ils manquent d'argent, c'est trop lourd. Ils s'arrêtent dans un coin, ils cherchent des pierres. Ils prennent les pierres, ok, c'est ça. Il fait 10 kilomètres, ils s'arrêtent. Il trouve des pierres plus belles. Il jette les dieux qu'il avait avant et il reprend des nouveaux dieux. Regardez, c'est une religion en fonction des goûts et des couleurs. Il est l'esclave de ses goûts, de ses couleurs, de sa passion, de ses envies. Et c'est vrai. Regardez nos problèmes, c'est quoi? Nos problèmes, c'est quoi? On fait des bêtises. On se dispute. On se bagarre. On s'entretue sur terre, hein, musulmans et non-musulmans. Qui c'est qui est derrière tout cela? Un nefs. Vous allez me dire, non, c'est Shaitan. Je vous dis, vous n'avez rien compris. C'est pas Shaitan qui est à l'origine. La preuve, Shaitan dont vous parlez, qui c'est qui l'a égaré? C'est Shaitan qui a égaré? Un autre Shaitan qui a égaré Shaitan? Qui c'est qui a mis Shaitan dans le trou? C'est un pronom personnel. Je, Anna. Qui est le reflet du nefs. Anna khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Regardez. Shaitan a été victime de son nefs. Allahu Akbar. Et nous sommes victimes de notre nefs d'abord. Une fois que ton nefs est pourri, Shaitan il vient et plante des arbres. Tout simplement. T'as ouvert la porte à Shaitan, tu lui dis viens, t'es le bienvenu. Parce que Shaitan il rentre, il fait ce qu'il veut. Mais si ton nefs est fort, il y a un hadith qui est daif. Non. J'ai lu dernièrement dans l'Albanie le Sahih Jami' al-Sahir. Le hadith il est Sahih, je crois. Le hadith dit que le diable circule dans notre corps comme le sang circule. Ça, le hadith, il est sahih, mais il y a un autre morceau. Donc, dayiqou alayhi biljou'a. Yani, barrez-lui la route. Hein, il circule, hein, il y a des chemins. Barrez-lui la route en mettant quoi comme obstacle? La faim. Allez, le jeûne, le jeu. Allez, il meurt, Shaitan. Il faut bien qu'il se nourrisse, Shaitan. Il se nourrit de quoi? Il se nourrit de notre faiblesse. Mais puisque tu jeûnes, il n'y a plus de vitamines, skin. Il est faible, il a faim. Et c'est vrai, regardez pendant Ramadan. Oh, on fait moins de péchés, on déconne moins. Pourquoi? Parce que Shaitan est moins fort et notre nefs a été affaibli. Donc, le danger des dangers, c'est d'être l'esclave de ses passions, l'esclave d'un objet tout simplement, d'un objet. Regardez comment nos jeunes sont l'esclave aujourd'hui des vêtements. Ta'issa Abdul Khamisa. Esclave des vêtements, esclave de la mode. Ils nous sortent une mode aujourd'hui. On est content, on plonge, on achète, on fait. 3 mois plus tard, ils t'en sortent une nouvelle, ils disent, tu sais, la mode de la dernière, la jeter arnaquée, elle est périmée, elle n'est pas bonne. Voilà la bonne. Et tu replonges dans le piège. Des arnaques, et on vaut que du feu. Wallah al-Azim, ce qui est de plus bête et stupide, ils t'en font un truc extraordinaire, avec la publicité, avec la télé surtout, avec les chansons, et toi, t'avales. Et je vous jure qu'ils sont capables de nous faire porter sur la tête une casserole. N'en riez pas. Ils seront capables. Un jour ou l'autre, il y a un imbécile qui va vous sortir une mode. Ça sera un morceau de ferraille sur la tête et les gens vont le faire. Ils leur ont fait porter pire. D'ailleurs, ils sont même allés jusqu'à leur faire porter rien du tout. La nudité. Ils l'ont embellie. Regardez comment on peut être l'esclave d'un objet. Comment vous m'expliquez, Miskin? Des gens qui se piquent, qui se droguent, qui se détruisent le corps, le cerveau, la famille, l'alcool. Ils sont esclaves de ces choses-là. Ils n'ont pas appris à leur nefs à dire non, j'en veux pas. Tu veux pas de quoi? Même l'eau qui est halal, j'en veux pas pendant le Ramadan. Parce qu'Allah me l'a dit. Ben Allah qui m'a dit ne consomme pas l'alcool, je vais le respecter 2 fois plus parce que j'ai su le respecter en ne buvant pas d'eau. Donc, par rapport à l'alcool, c'est plus facile pour moi. Allez, celui qui est capable de beaucoup est capable de moins. Si tu sais porter 100 kilos, 50 kilos, c'est plus facile. Le Ramadan, la taqwa veut nous libérer de l'esclavage de nous-mêmes, d'un objet. L'esclavage d'un être humain. Aujourd'hui, les êtres humains sont les esclaves de leurs semblables. Il y en a qui adorent des chanteurs. Ils s'habillent comme lui, ils parlent comme lui, ils mangent comme lui, ils dorment comme lui. Esclaves des trucs, là, comment ça s'appelle? Les stars. Stars et starlettes. Il vit. Il y a un jeune dans une ville, un quartier. Il a vu un film, depuis qu'il a vu ce film, il est toujours dedans. Les mêmes vêtements, il les porte toujours. Ouais, Scarface. Les mêmes. la même pose, la même façon de parler, tout le mec mskin, ben, khlas, il est victime, vous comprenez? Il est victime. De... Allez, bon, c'est un cas, mais en fait, c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Allez, c'est inconscient, vous comprenez ce que je veux dire? Allez, à la fin, t'es dedans, et tu sais même pas que t'es dedans. Vous comprenez? C'est inconscient. C'est-à-dire qu'ils ont tellement bien travaillé ton subconscient que tu n'es même plus conscient que tu es inconscient. Alors ça marche. C'est ça, Erwan, les shaitan. Shaitan sait qu'il te fait croire que tu as raison alors que tu as tort. C'est pour cela, je crois que c'est Soufiane ibn Uyayna qui a dit. Non, c'est l'imam ibn Taymiyyah. Il y en a un qui l'a dit avant lui, mais l'imam ibn Taymiyyah. Il a dit. La bid'a, c'est pire que le kofr. La bid'a, c'est pire que le kofr. On lui a dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Une innovation est pire que de la mécréance? Il a dit oui. Parce que le mécréant, au moins il sait qu'il est mécréant. Tu peux lui faire de la da'wa pour le ramener. Mais celui qui est dans une bid'a, une innovation, il croit être dans la vérité. Quand tu essaies de le ramener à la raison, il se braque et il te combat parce qu'il t'estime être toi dans l'erreur. C'est pour cela, Shaitan, il préfère qu'on fasse des bid'as que des péchés. Parce que celui qui fait un péché, il regrette. Il demande pardon. Celui qui fait une bid'a, il ne demande pas pardon. C'est l'art de trop.
Allahu a'lam wa alhamdulillah. As-salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.